Et nous accueillons Emmanuel au 39-21. Bonsoir Emmanuel.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Emmanuel?
Moi je vous appelle du Havre. Voilà.
Du Havre, d'accord. Et quel âge avez-vous?
50 ans.
D'accord. Alors dites-moi ce qui vous amène Emmanuel.
Alors moi je voulais parler de l'alcoolisme.
Oui.
J'en suis à ma 4e rechute. Alors, après avoir fait plusieurs cures. Et je m'aperçois que, d'une part, c'est très mal perçu par par toutes les personnes lambda qui peuvent vous entourer, et très compliqué, avec la famille aussi, puisque les gens ne comprennent pas quel combat ça peut être de rester abstinent. Quand vous pensez qu'à ça, quoi. Même si vous savez que ça vous détruit.
Oui. Cela vous a pris, il y a un moment, cet alcoolisme?
Oui, ça a commencé très jeune. Ça a commencé dans les fin 80, début 90, de par ma profession, je fréquentais des gens beaucoup plus âgés que moi.
Oui.
Avec qui nous déjeunions au restaurant tous les midis. Donc c'était apéritif, vin à table, digestif payé par le client après ou par nous. Enfin, vraiment, c'était. Et c'était. Mais c'était. Je veux pas cracher dessus non plus parce que c'était de très bonnes années, si vous voulez. Au niveau souvenir, c'était de très bonnes années. Mais, avec l'accoutumance, ça a fait que je suis devenu accro à l'alcool, quoi.
Quel secteur, de quel secteur parlez-vous, en fait? Quel secteur professionnel? Le bâtiment?
Non, du tout, du tout. D'accord. Du tout. Non, du tout. Au départ, c'était de la vente automobile.
Oui.
Donc, c'était même pas. C'était justement, c'était de l'alcoolisme mondain. C'est-à-dire que on n'allait pas déjeuner ni prendre l'apéritif au PMU du coin, quoi. C'était au golf, au tennis club. Mmh, au... Mmh. Et, vous voyez, c'était là où tout le monde. Enfin, tout le monde. Et je leur jette pas la pierre, mais. Là où tout le monde boit, mais personne ne boit, quoi.
C'est là que vous vous êtes, pour vous, accoutumé à l'alcool?
Oui, oui, mais encore une fois, je me répète, je peux pas leur en vouloir à ces gens-là, parce que ces gens-là, malheureusement, qui étaient devenus mes amis, sont maintenant, puisque moi j'avais 25 ou 30 ans d'écart, sont décédés maintenant.
Ils sont tous décédés? Tous décédés?
Oh, quasiment tous. Quasiment tous. Mais décédés, malheureusement, d'abus aussi, d'abus.
Et cet alcoolisme s'est donc installé. Au début, oui. Vous parlez d'un alcoolisme mondain.
Oui.
Et finalement, maintenant, en fait, il a tourné vers quoi, en fait?
Eh bien, l'alcoolisme mondain, on ne s'en défait pas comme ça. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un... Je m'en excuse auprès de tous ces gens qui peuvent sortir du travail en allant boire une bière. Après, moi, on ne me verra pas au bistrot du coin. C'est parce que je vais aller, même si j'y mets 10 euros de plus, mais je vais aller prendre une coupe de champagne dans un lieu qui va me...
Vous satisfaire, vous plaire.
Voilà. Et par contre, ça occasionne des problèmes de santé.
Oui, mais lorsque vous dites que vous regrettez le regard que les gens portent sur cet alcoolisme, Dans quel type de situation? Parce que est-ce que cet alcoolisme vous pousse à boire régulièrement et jusqu'à vous mettre dans un état qui se remarque, ou pour qu'on puisse porter l'œil dessus, le regard dessus, pardon?
Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Chose que moi je ne me rends pas compte. Et seules les personnes très intimes puissent me le faire remarquer. C'est-à-dire, si vous voulez, moi, je ne me rends jamais compte que j'ai trop consommé. Mmh. C'est les personnes, c'est notamment ma maman,
oui.
Mon frère, mes trois enfants. Les autres, par rapport au métier que j'exerçais après, moi j'ai été cadre supérieur. Donc, personne ne se serait permis de me faire remarquer quelque chose, si vous voulez. Mmh, et ça, et non, mais ce n'est pas d'avantardise du tout, c'est le fait de dire que eh ben, les seules personnes qui étaient capables de me faire compte, de me rendre compte de ça, c'était donc ma maman, mon frère, mes enfants, mon fils notamment. Et ben c'est très dur parce que je peux avoir des moments d'abstinence et je peux avoir des moments de débauche. Mmh. Mais maintenant, après, même si les finances ne suivent plus, je ne vais toujours pas aller consommer dans la rue ni rien, je vais boire chez moi tout seul, quoi, tranquillement. Quoi. Mmh. C'est un réel problème qui vous ronge, qui détruit votre avenir et qui empiète sur la bonne marche de la société dont vous voudriez faire partie. Quoi.
Et vous vous sentez donc exclu? Ou est-ce qu'au final, vous excluez seul, tout seul?
Mais je m'en exclue tout seul, bien entendu. Mmh. Bien entendu, puisqu'à un certain moment, pour éviter tout problème, je ne sors plus de la maison.
Oui. Mmh.
À un certain moment, on ne sort plus.
Vous travaillez toujours ou vous avez arrêté de travailler?
Non, là, j'étais en arrêt suite à une dépression, à un burn-out. Enfin, un burn-out, c'est un grand mot. Par contre, là maintenant, on ne sait plus si... Moi, je ne sais plus si c'est l'alcool ou le travail qui... Mais bon, l'alcool y a été pour beaucoup. Beaucoup. Donc, je ne travaille plus. Et je me retrouve à 50 ans en invalidité. Bon, étant donné que j'avais un salaire suffisant, l'invalidité se fixe là-dessus. Donc, si vous voulez, je peux en vivre de mon invalidité-là, mais ce n'est pas la solution.
Et on va faire une petite pause, parce que j'ai encore quelques questions à vous poser.
Oui.
Et vous ne quittez pas, hein, vous restez en ligne avec nous. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est 22h44, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39-21, Natacha et Florian, je les vois, ils sont tous les deux à droite, à gauche et attendent vos appels. Donc vraiment, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Nous sommes avec Emmanuel qui nous parle de cet alcoolisme chronique, cet alcoolisme qui le tient depuis un moment maintenant, Emmanuel. Que prévoyez-vous de faire? Vous m'avez parlé de 4 rechutes. Cela veut dire que vous avez donc essayé de décrocher.
Oui. En étant hospitalisé dans une clinique formidable. Formidable, avec le psychiatre qui est d'autant plus formidable. Qui comprend les choses. Après, les gens à l'extérieur ne les comprennent pas parce que L'alcoolisme, c'est pas une maladie, c'est un vice. Donc, pour beaucoup de gens, c'est un vice encore. Et pourtant, si vous saviez comment j'aimerais m'en débarrasser.
Oui, vous aimeriez vous en débarrasser, mais aujourd'hui, en fait, vous avez tenté beaucoup de choses, je suppose.
Oui. On a fait parce que... Bon, il faut savoir que j'ai subi un traumatisme étant enfant. Alors, est-ce que ça a rapport ou pas? Même les meilleurs... Enfin, les cinq psychiatres que je connais, qui font partie de la clinique où j'ai été hospitalisé, ne savent pas dire si vraiment ça a rapport ou pas. Moi, à l'âge de 10 ans, j'ai vécu le décès de ma petite sœur qui s'est noyée devant moi. Voilà. Donc, c'était un traumatisme, un séisme dans la famille, de toute façon.
Mais aujourd'hui, Emmanuel, je pense que vous avez eu le temps d'évaluer ce que vous allez chercher dans l'alcool.
Oui.
Est-ce que vous pensez réellement que le décès de votre petite sœur, qui est maintenant loin, peut être à l'origine de ça, vraiment? Ou est-ce que ça n'est pas ailleurs et peut-être y avez-vous réfléchi?
Je ne sais que ça, que d'y réfléchir.
Oui.
Et je n'ai pas la réponse.
D'accord.
Je n'ai pas la réponse.
Vous ne savez pas dire quand on vous pose la question de ce que vous allez chercher, pourquoi, même ne serait-ce que ce que vous allez chercher au niveau de l'effet, et ensuite ce que cet effet vient combler en vous, vous apporte, en fait. Est-ce que l'effet, la chaleur de l'alcool vous permet de vous désinhiber, de vous sentir plus vous?
Bien sûr, mais à la limite, je pourrais faire une expo sur les apports de l'alcool, si vous voulez, dans le sens où c'est l'anxiolytique le plus rapide au monde, et c'est le plus dépressogène.
C'est un des plus destructeurs aussi.
Oui, ouais. Bien sûr. Oui, oui. J'en suis bien conscient.
Oui. Non, ce qui est très étonnant, c'est que vous en parlez de manière très clairvoyante, très intelligente, et que vous me disiez que vous n'avez pas trouvé encore le début d'une réponse, en fait.
Non.
Ouais.
Non.
C'est ce qui doit vous inquiéter.
Parce que, bien sûr. Parce que j'ai toujours ce besoin de ressentir le meilleur, de prendre le meilleur, si vous voulez. Donc, je suis un bon mangeur, je cuisine, j'aime bien cuisiner, j'aime bien la bonne chair, et l'alcool en fait partie d'une chose où je m'y retrouve, quoi. Mais je m'y retrouve. Mais je sais très bien que ça me fait du mal, parce que derrière, je déprime. À la descente, je déprime.
Et vous suivez un traitement, là, en ce moment
Oui. J'ai des antidépresseurs le matin. Et puis j'ai un traitement pour la nuit, oui. Oui.
Pour lutter, en fait, contre la consommation ou rien contre l'alcoolisme?
Vous savez, il n'y a pas de médicaments qui sont vraiment spécifiques pour l'alcoolisme.
Il y a le baclofène, vous voyez.
Baclofène, oui.
Ça sert à quoi, en fait?
Ma psychiatre n'y est pas pour, parce que c'est pour calmer les envies.
D'accord.
Mais les envies, quand ils sont ancrés dans la tête... Vous pouvez prendre tous les baclofènes ou les Aoutal ou il y a quoi, il y a je sais plus, enfin il y en a un autre aussi, ça vous empêche après de boire, ça vous empêche après de boire.
D'accord. Non, parce que je ne sais pas, j'ai souvent entendu parler de ce traitement,
mais j'ai bien étudié l'affaire. C'était au départ, c'est un produit qui est dérivé. Au départ, c'est un produit de cardiologie qui servirait à, atténuer les envies. Mais moi, je vous dis, je suis mis de la houtale et de... Ah oui, écoutez, ça me sort de la tête.
Bon, en tout cas, si ça ne vous a pas réussi, bon, mais...
Bah, de toute façon, si l'envie reste dans l'esprit,
oui.
l'envie après, voilà, l'envie, si ça peut calmer l'envie physique, oui, mais si l'envie, vous avez envie de prendre un verre, vous allez prendre.
Rien n'a atténué, en tout cas, cette envie de boire de l'alcool.
Non. 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 Et ça, eh ben, pourtant, j'ai un bon collège de psychothérapeutes autour de moi.
Hein. Oui, je me doute. Ouais.
J'ai pas la solution. J'ai pas. Mais assurément, je ne demande pas de l'avoir non plus.
Non, mais je me demandais, on en a pas parlé. Parce que vous semblez avoir tenté beaucoup de choses, mais au Havre, vous avez quand même les Alcooliques Anonymes. Est-ce que vous avez tenté les réunions des Alcooliques Anonymes? Est-ce que vous êtes allé tenter d'aller dans ces salles?
Non, je viens de prendre contact avec Notidia, qui est une association où j'ai une infirmière addictologue qui me suit.
Mais vous devriez essayer les Narcotiques Anonymes. Vraiment. Vous devriez essayer parce que vous avez essayé beaucoup de choses, visiblement.
Oui.
Et les Narcotiques Anonymes ont marché pour beaucoup, beaucoup de cas comme le vôtre aussi. Entre autres, j'allais dire. Et,
vous me parlez de Narcotiques Anonymes.
Alcooliques Anonymes, pardonnez-moi.
Ah oui.
Oui, parce qu'en fait, ce sont les mêmes... Enfin, ce ne sont pas les mêmes corporations, mais on est basé sur les mêmes... sur les mêmes règles. La même méthode du groupe de parole et ça serait quand même, je pense, vraiment à tenter. Vous voyez, vraiment à tenter parce que j'ai recueilli la parole de beaucoup de personnes qui étaient dans un alcoolisme bien installé depuis 20 ans, 30 ans. Et les Alcooliques Anonymes se sont révélés être la solution qui les a... Vous voyez, vous parliez du regard que les gens portent. On apprend beaucoup dans cette corporation, dans cette communauté, plutôt, c'est le meilleur mot. Dans cette communauté, à dompter ce regard, en tout cas, à ce que ce regard ne soit plus, ou en tout cas soit moins blessant. On apprend aussi à accepter qu'on est malade. On apprend à accepter que on peut s'en sortir aussi et qu'on n'est pas seul à souffrir de ça. On apprend à moins se taper dessus, à moins culpabiliser, à moins penser qu'on est hors norme et foutu. On apprend à reprendre de l'espoir, on apprend à prendre conscience de tout un tas de choses que vous semblez en plus vraiment avoir en vous. Et je pense vraiment que vous devriez essayer ça. Et si vous avez... le moyen de temps en temps d'aller à Paris, parce qu'il y a des réunions tous les jours. Je sais, je suis normand.
Paris, c'est à deux pas de chez moi.
C'est exactement, comme je suis d'Evreux, je sais que vous, au Havre, vous n'êtes pas très loin non plus de Paris, quoi, c'est rien. Et c'est vraiment pouvoir s'offrir cette chance, s'offrir ce cadeau. Parce que je le dis à chacune des personnes qui appellent sur cette antenne pour l'alcool.
Oui.
Dans cette communauté, dans ces salles, à chaque fois que vous y rentrez, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui vous ressemblent, d'autres qui ne vous ressemblent pas. Mais il y a à coup sûr des gens qui vont vous montrer que vous êtes, vous avez votre place là et qu'on va vous aider. Et qu'en vous aidant, ça va aider aussi. Et que vous allez vous mettre à aider aussi à un moment parce que vous le connaissez depuis longtemps, cet alcoolisme, donc vous en savez
bien
des
sûr
choses dessus, vous voyez.
Mais mon Dieu, mais là, il est bien évident que je ne peux pas être un exemple, mais si je pouvais l'être un jour, mon Dieu, que je redonnerais ce que je peux apporter.
Mais alors, allez aux Alcooliques Anonymes. Allez aux Alcooliques Anonymes, tentez ça,
oui,
Emmanuel.
Oui.
Vraiment. Je pense, je suis Étonné même que personne ne vous ait parlé des alcooliques anonymes.
On en a parlé. Mais peut-être que ma psychiatre n'est pas spécialement adepte de ça, je ne sais pas. Donc, parce que vous savez, à un certain moment, vous faites un transfert affectif et ma psychiatre, par exemple, reste quelqu'un en moi qui a comme une parole d'évangile, quoi, si vous voulez.
Oui, mais j'ai envie de vous dire que ça, c'est même pas un problème de psychiatre qui aime ou qui n'aime pas. C'est, enfin, voilà, c'est. Je suis persuadé que ça peut vraiment vous amener quelque chose. Et en plus de ça, vous inscrire dans une démarche par rapport aux autres aussi, parce que je suis persuadé que vous pouvez trouver une place dans cette communauté et pas que cette place de celui qui vient pour se sauver, mais qui peut aussi à un moment vite aider les autres en se soignant en fait, parce que
bien sûr
c'est le principe de cette communauté, ça marche sur l'échange, sur la confiance, plein de choses qui nous font défaut quand on tombe dans une addiction et on croit toujours qu'on est un peu perdu et un peu seul quand on tombe dans une addiction. Or, il y a tellement de gens qui souffrent d'addiction. Donc,
je l'entends bien. Et puis, j'en prends bonne note, de toute façon. De toute façon, moi, j'ai pas grand-chose à perdre, si vous voulez. Enfin, j'ai pas grand-chose à perdre, et j'ai peut-être mal tourné ce que je vous dis. Mais, maintenant, après, à première vue, je suis oisif de mon temps. J'ai de quoi vivre, je suis bien logé, je suis chauffé, enfin bon, ça va, quoi. Donc, oui, bien sûr, je manque aussi d'occupation. Moi, qu'en ai eu, à certains moments, beaucoup, tout en m'alcoolisant beaucoup, j'ai eu beaucoup d'activités professionnelles à certains moments.
Mais tout ça peut revenir, hein, vous savez. Tout ça peut revenir. C'est ce que vous apprendrez aussi dans ce type de groupe. Parce que tout est possible, en fait. On réalise que tout est toujours possible quand on se défait de cette addiction. Parce que cette addiction, elle ne peut mener qu'à l'hôpital, au cimetière ou en prison. Ou, en tout cas, elle ne peut rien amener de bon, on le sait. Et vous le savez.
Oui. Je pense que ce sera plus à l'hôpital et au cimetière, parce que en prison je vois pas, parce que moi je
non mais c'est ce qu'on
si on n'assure pas, donc je vois pas ce
qu'on non mais mal. c'est ce qu'on vous dit lorsque l'alcool est présente comme ça dans l'existence au quotidien. Donc écoutez, en tout cas je vous encourage vraiment à rejoindre les Alcooliques Anonymes. Vous avez tout sur Internet, vous tapez Alcooliques Anonymes et vous allez voir les villes où il y a des réunions, à quelle fréquence, à Paris, au Havre, à Rouen. Et n'hésitez pas à me donner des nouvelles, Emmanuel, d'accord ?
D'accord, on fait comme ça.
Merci pour votre parole ce soir sur l'antenne d'Europe 1.
Merci de m'avoir écouté.
Je vous en prie, au revoir.